Allez, on va changer de sujet avec la chronique « Qu'est-ce que j'ai appris cette semaine ?» Ah, bah Thierry, qu'est-ce que tu as appris cette semaine ? Eh bien que suite à l'expulsion de l'ambassadeur français au Mali, ta copine, Jeannot, Valérie Pécresse, a fustigé l'attitude du gouvernement français. Hein ? La position diplomatique prise par le gouvernement français avec les dirigeants maliens n'a pas été du tout du goût de la candidate à la présidentielle qui a déclaré...
Je ne comprends pas. Qu'est-ce que l'ambassadeur du Mali fait encore en France ?
Bonne question, Valou. Bonne question. Sauf qu'il n'y a plus d'ambassadeur du Mali en France depuis 2 ans. Du coup, bah, difficile de l'expulser. Et Marine Le Pen qui a également...
Il va y avoir une représentation diplomatique. Tout à fait.
Emboîté le pas et elle est tombée dans le panneau. Il paraît qu'on a les politiques qu'on mérite. Hein, il paraît. Ouais, hein. Attends, il y a une différence entre un chargé... Alors, il y a un chargé d'affaires.
Ils n'ont peut-être même pas les moyens d'entretenir un ambassadeur.
Ouais, ah non. Toumani Djimé Diallo, c'est lui, hein. Toumani Djimé Diallo, je le connais bien, j'ai été à l'école avec lui. Il était donc en février 2020 encore donc ambassadeur. Il a dénoncé devant la commission de défense du Sénat le comportement de légionnaires français dans ce qu'il appelle les Pigalles de Bamako. Il avait aussitôt été rappelé par son pays, avec lequel les relations étaient encore loin de ce qu'elles sont aujourd'hui. Hein. Mais depuis, n'a pas été remplacé. Donc il y a un concierge et il y a un chargé d'affaires. Donc voilà.
D'accord, mais pourquoi elle pose la question ?
Voilà. Alors,
ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas qu'elle qui pose la même question.
Non, il y a Marine Le Pen. Voilà. Exactement, alors emboîtez le pas. Bah, mettez-vous au courant, les filles, quoi. Enfin, franchement, mettez-vous au courant.
Dans la représentation diplomatique, il y a toujours quelqu'un.
Je viens de te dire qu'il y a un chargé d'affaires.
Je sais, je connais bien le problème.
Tu connais bien le problème, mais tu connais pas tout. Tu aurais dû
la conseiller.
Ta
candidate.
Tu devrais faire ça. Qu'est-ce que j'ai vu aussi cette semaine ? Les JO de Pékin, où il n'y aura pas un Pékin d'ailleurs, hein, restrictions sanitaires oblige, et où il n'y a pas masse de neige non plus, tiens, on peut le dire. Ouais. Pour la première fois pour les JO d'hiver, la neige sera 100% artificielle.
Il paraît que nos athlètes vont entrer à pied de la Chine.
Oui, ça, alors celle-là, évidemment, je l'attendais, j'arrive à pied par la Chine. Voilà, vous m'avouerez que c'est quand même pas très futu d'organiser des JO d'hiver dans un endroit qui n'est pas particulièrement prisé pour la qualité de sa neige.
Eh ben, ça va être en 2034 dans les Alpes du Sud. Ouais, ça sera exactement ça, tu vois. Tu auras quelques cordons de neige artificiels et dans un désert. C'est impressionnant.
Manquerait plus qu'ils organisent une Coupe du Monde de foot dans un pays où il n'y a pas d'équipe nationale, ni de stade et où il fait 50 degrés.
C'est
hein,
le Qatar,
franchement.
Ça.
Sans blague. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre ? Marion Maréchal, nous voilà le retour.
Ah ouais.
Ah bah oui, allons bon. Alors, elle a décidé qu'elle n'appuiera pas Tantine. Elle a hésité à rallier le Gargamel de la politique aussi. Mais pourquoi ce retour Gargamel. Précipité ? Pourquoi ce retour précipité, allez-vous me dire ? Eh ben, Marion rencontrerait des problèmes financiers. Son école lyonnaise serait tout simplement au bord de la faillite. Alors, rien de mieux que la politique pour se refaire la cerise, les enfants. Eh oui, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai vu aussi ? Oh ! Manuel Valls. Je le vois de plus en plus. Il est de retour, il passe à la télé, il est sur les réseaux sociaux. A-t-il des ambitions pour les présidentielles ? Non, quand même pas. Hein. On en a déjà comme ça assez à gauche. Mais il est dispo.
Gouverner de nouveau, je suis fait pour ça. J'aime ça, j'ai cette passion. Je suis un politique jusqu'au bout des doigts. Je pense même que la politique a quelque chose à voir avec le professionnalisme. Nous l'évoquerons. Mais d'abord, je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de talent. Je pense que l'expérience peut être utile.
Est candidat, mais on ne sait pas.
Non, il n'est pas candidat, mais...
Il est candidat à un poste de ministre.
Voilà.
Alors, peu importe si c'est Macron...
On s'en fout.
Il y va, voilà.
Voilà. Comme je voulais vous dire, Valls a mis le temps, mais il est de retour. Alors, j'ai appris aussi que Éric Zemmour avait un problème de sémantique et de lunettes. Ah oui, écoutez.
Moi, je ne vois que ce que je crois.
Ah ouais. Moi, je ne vois que ce que je crois, ce qui expliquerait bien sûr l'étroitesse de sa vision. Les résultats de la primaire populaire, pour finir. Alors ça, évidemment, ça a été la barre de rire du week-end. Pas tant sur le fond, hein, mais sur la forme. Les résultats façon bulletin scolaire, niveau primaire. Bon, d'un autre côté, c'était une primaire. Hein. Bon, c'est vrai que ces résultats ont définitivement décrédibilisé cette primaire qui était déjà refusée par 3 des participants, présents à l'insu de leur plein gré, hein, on peut le dire. Donc, il y avait Mélenchon, Hidalgo et Yannick Jadot. Alors, on est passé des assez bien plus à des passables moins. Et à ce petit jeu, c'est Tantine Taubira hein, qui a décroché la timbale avec la mention bien plus. Et pourtant...
Juste pardon, si on augmente le RSA de 30%, les gens restent sous le seuil de pauvreté quand même.
Oui, mais on y ajoute... On y ajoute, voilà, on peut y ajouter l'APL d'une part, je considère que...
Il faudrait qu'il y ait des images, qu'on voit Thierry en train de ramer.
Il y a la nécessité de revoir la totalité des minima sociaux.
Voilà, ah là là. Alors, mention bien plus pour Christiane, ça vous laisse une idée du niveau des autres. Alors, deuxième, c'est qui? C'est Yannick Jadot.
Bon, alors, le niveau?
Il mérite C, il est sérieux.
Oh oui, il travaille très bien.
Je suis d'accord. Eh bien, vous n'êtes pas difficile.
Voilà, donc nous avons le troisième du classement. Alors là, bah c'est Jean-Luc.
Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour celui-là? Qu'est-ce que je mets aux parents?
Oh, pour celui-là, plus rien à faire. Vous n'avez qu'à dire aux parents d'en faire un autre.
Ensuite, c'est Larvouturou. Larvouturou, quatrième, c'est pas mal.
Vous n'allez tout de même pas lui refuser les félicitations? C'est le seul élève à peu près bon en maths. Il fout rien en gym. Il a un de moyenne.
C'est vrai qu'il n'y a qu'en gym que ça ne va pas.
Eh oui. Et puis en cinquième position, Hidalgo.
Niveau C avec un moins.
Ben oui, niveau C avec un moins. Mais la question que tout le monde s'est posée à la fin du résultat, c'est ça.
Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens-là à la fin de l'année?
Ben oui, qu'est-ce qu'on va faire? Alors revenons sur cette primaire, je vais poser la question. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un meilleur impact sur cette fameuse primaire si on ne l'avait pas faite un petit peu avant? C'est-à-dire si on avait pu travailler sur ça il y a un an? Je ne sais pas ce que tu en penses.
Alors, j'ai pas beaucoup réfléchi, mais c'est une conception assez singulière de la politique et de la démocratie. Voilà des jeunes gens qui considèrent qu'il faut organiser une primaire, qui désignent de façon très autoritaire qui peut être candidat, même ceux qui, ne veulent pas y aller,
qui
sont forcés d'y aller. Enfin, c'est une conception assez étonnante de la démocratie, où en vérité, on met en concurrence des personnes qui ne veulent pas l'être. Hein. On s'affranchit de tout programme. Enfin, c'est très particulier. Donc, je suis pas étonné que ça fait pchit, cette affaire-là.
C'est vrai que ça fait pchit.
Et le dénouement était assez incroyable. Il aurait suffi de dire Taubira a gagné. Non, ils sont embarqués dans une grille de notation qui a laissé perplexe tout le monde.
Non? Oui, moi le premier.
Là où ça me contrarie le plus, c'est qu'en fait, c'était une démarche pour avoir une candidature unique à gauche, au départ, c'est ça.
Et en fait, ça nous a rajouté une.
On s'émerde pour en rajouter une, quoi. Comme s'il n'y en avait déjà pas assez, quoi. Moi qui suis de gauche, vous le savez, donc je ne vais pas m'en cacher, je suis catastrophé.
Oui,
c'est une véritable pantalonnade, ces élections. Parce que il y a la gauche qui n'est pas brillante, loin s'en faut, mais la droite, on ne peut pas dire que ce soit du top niveau non plus.
On parle de la gauche pour l'instant.
Ouais, t'es pas obligé.
Je trouve que tu fais preuve d'un peu de naïveté.
Pourquoi?
Ah oui, oui.
Il semblerait que depuis le début, cette initiative n'avait qu'une seule visée. Propulser Taubira.
Ah oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Je pense que, effectivement. Moi, je te rejoins. Au début, j'y avais pas pensé, mais effectivement, après réflexion, je me dis, c'est quand même bizarre.
Oui, mais n'empêche que le pourquoi du commun, c'était la recherche d'une seule candidature à gauche. On est bien d'accord. Hein.
Bah, ils cherchent toujours. Hein.
Le primaire, la primaire, c'était ça. Hein. C'était le fait qu'il y ait plusieurs candidatures et que c'est pas possible. Quoi.
Pour 2034,
quand on voit tout ça, on peut être nostalgique des partis politiques.
Ouais,
c'est inquiétant.
Qui avaient quand même le mérite de réunir des gens, de réfléchir, de se positionner, de mobiliser.
Oui, mais ça démontre qu'ils ont effectivement, ils sont en grande difficulté, c'est une désolation. La nation aujourd'hui, elle aspire à autre chose. Et c'est vrai que bon, le fait de dire qu'ils ont voulu organiser des primaires d'une manière un peu autoritaire, le terme autoritaire me semble pas. Ils n'ont pas imposé dans tous les cas, ils ont proposé.
Ah, ils ont proposé.
Incité, probablement, fortement. Mais le terme, qu'on dit un peu directif, non. Ce qu'il faut comprendre, ce qui est intéressant, c'est que cette jeunesse, entre guillemets, puisque ça vient a priori de la jeunesse, ça démontre qu'aujourd'hui, le vieux monde, entre guillemets, est déjà en décalage. Alors, c'est vrai que le monde politique, et je me suis permis de le dire plusieurs fois, est à la traîne parce que la société va trop vite. L'innovation, les organisations, ça va très vite. Donc le monde politique est en retard. On ne va pas lui faire le procès parce qu'il essaie de faire ce qu'il faut. Deuxièmement, est-ce que la nation serait capable de supporter des réformes qui pourraient remettre de l'ordre dans tout ça? J'en suis pas convaincu, en tout cas dans notre pays. Donc il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde politique est à défaut d'une manière générale. La droite a subi le coup d'avant des déboires, ils se sont mieux organisés et pour le coup ça...
Ils reviennent un peu.
Exactement, en tout cas ils sont un petit peu en ordre rangé sur lequel il y a...
Chose que le PS n'a pas réussi à faire.
Eh ben non, je comprends pas. Enfin, ben on ne comprend pas un pays comme le nôtre où l'ADN de notre pays c'est le social. C'est le social, c'est possible. C'est le social, donc c'est notre ADN, notre culture. Eh ben le monde, les socialistes ont en partie détruit, en tout cas ils se sont pas imposés, ils se sont complètement trompés de stratégie. Alors peut-être qu'aujourd'hui on devient de plus en plus individualiste, ce qui est regrettable, en tout cas moi je le regrette. Je salue toujours mes aïeux qui ont construit ce mécanisme de solidarité. Et aujourd'hui, dans ce système de solidarité, on a créé l'ultra-individualisme. Et c'est malheureusement, la gauche n'a pas su transformer ses essais en disant « on doit être utile au plus grand nombre et pas le plus grand nombre à mon service ». Et on est aujourd'hui dans cette logique, à tort ou à raison. Moi, je fais le procès de personnes en particulier, sauf que le constat il se fait là aujourd'hui. On regarde toutes nos institutions en France, il y a quelque chose qui ne va pas, elles ne sont pas au bon niveau, elles en réclament toujours de plus en plus. Et derrière, je pense qu'on est frustré, le commun des mortels, qui lui est peut-être moins nanti, est frustré de voir les services qu'il y a aujourd'hui. On parlait de la SNCF tout à l'heure. Le droit de grève est une bonne chose, les syndicats sont une bonne chose, mais à un moment donné, on ne détruit pas l'outil de travail qui nous permet de nous propulser et d'évoluer dans notre société.
Voilà, ce sera donc le mot de la fin sur la gauche.
Non, c'est pas que la gauche. On pourrait dire, la gauche, ils sont à la ramasse, ils seront pas là, ils seront là le prochain coup. Moi, c'est plus grave que ça. C'est pas qu'une histoire de gauche ou de droite, c'est un problème de démocratie dans notre pays. Quand on voit la montée de l'extrême droite quand même, c'est quand même 30% de gens qui vont voter pour des programmes qui sont catastrophiques.
Ça tombe bien que tu m'ouvres sur ça. Ouais. Je voulais vous parler des ralliements donc de Zemmour. Alors nous avons évidemment De Villiers, nous avons le Poisson aussi, hein, vous vous souvenez, président du Parti chrétien-démocrate. Ouais. Fondée par Christine Boutin, qui fait aussi partie de la bande, Jacqueline Moureau, figure des Gilets jaunes, Laurence Trochu, présidente de Sens Commun, Guillaume Pelletier, tiens, un ami de Jeannot, ancien FN, passé par l'UMP et les LR, et aujourd'hui de retour à ses premières amours, Jérôme Rivière, ça c'est un ancien proche de Marine Le Pen, Damien Rieu, cofondateur de Génération Identitaire, nous avons Gilbert Collard, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand même, dans les années 70, il a débuté chez les socialistes, hein. Avant de débarquer au FN, puis au RN, et avant de rallier le parti de Zemmour. Et puis, le petit dernier qui est arrivé. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Eh oui, vous l'avez peut-être oublié. Bruno Maigret.
Ah oui.
Bruno Maigret.
Napoléon.
Il est de retour. Moi, je l'avais complètement oublié.
Ouais. Il a pas changé, d'ailleurs.
Il a pas changé.
On l'a vu à la télé.
Alors,
il n'a pas grandi, non.
Beaucoup de départs aujourd'hui du Rassemblement National pour l'équipe Reconquête d'Éric Zemmour. Mais c'est du classique, hein, vous le savez. On est un petit peu dans le mercato. Hein. Bruno Maigret, je ne sais pas si vous vous souvenez, il était aux côtés de Jean-Marie Le Pen à la fin des années 90, avant de partir fonder son propre parti et de se présenter à la présidentielle de 2002, fragilisant ainsi le boss du FN. Enfin, le croyait-il ? On connaît la suite de l'histoire. Il ne fragilisera rien du tout. Il fera 2,3% au premier tour. Comme Christiane Taubira, d'ailleurs, qui s'était présenté cette année-là. Et Jean-Marie, 16%, 8, hein, juste au-dessus de Lionel Jospin, qui sera éliminé. Alors, c'est ça qui est très étonnant, et c'est drôle, la politique. Hein. Il n'y a pas de règle. Les 2,3% de Maigret n'ont pas empêché Jean-Marie d'être au second tour, alors que les 2,3% de Taubira ont empêché Lionel d'y accéder. Ça, c'était quand même très rigolo. Parce que c'est Taubira qui a fait chuter le PS lors de cette élection.
Il n'y avait pas que Taubira.
Oui, mais les 2,3% 2,3% de Taubira, ils ont coûté cher.
On parle beaucoup de Taubira, mais Chevènement, bon, on en parle moins. Forcément, il n'est pas candidat. Mais il y avait aussi Chevènement, et puis voilà.
Donc, question, est-ce que Éric Zemmour peut inquiéter Marine Le Pen, selon vous?
Il ne progresse pas beaucoup.
Ça reste toujours un peu stable. Comment tu juges, toi? Tu penses que Marine Le Pen, elle peut vraiment être inquiétée par Zemmour?
Oui. Ouais. Pour une raison assez simple, c'est qu'il reste sur des niveaux assez hauts d'intention de vote, autour de 15-16%.
Ah non, attends, bouge pas, j'ai le dernier.
Il est à 12.
J'ai le dernier. J'ai le dernier, je te le donne. Macron 24, Marine Le Pen, 31 janvier, hein. 24 pour Macron, 17,5 pour Marine Le Pen, 16,5 pour Valérie Pécresse, 12,5 pour Zemmour, voilà. 9,5 pour Mélenchon, 5,5 pour Jadot, 4,5 pour Taubira, 2,5 pour Hidalgo.
Je pense que le sondage est peut-être contredit par d'autres sondages.
Ah.
Parce que tout le monde se tient en vérité. Et que les marges erreurs font que...
Les marges de 2%.
Préjudiciable, c'est, je vous coupe, excusez-moi, c'est que le président n'a pas fait acte de candidature pour l'instant. À partir du moment où
Et pourquoi c'est préjudiciable?
Et si, parce qu'après, les choses vont se mettre en ordre de marche.
Et tu disais pas ça quand ton candidat Sarkozy a attendu... Exactement 61 jours avant de se lancer dans la campagne.
J'ai l'impression que c'était sous-entendu.
61 jours. Et le champion du monde, celui qui attend le plus longtemps, c'était Mitterrand, 30 jours. Vas-y, je te redonne la parole.
Du coup, alors, peu Yvan. Importe en vérité les intentions de vote aujourd'hui. Ce qui est frappant, c'est de voir que la France est écartelée et que les idées se sont radicalisées. Mmh. On a aujourd'hui 4 candidats qui peuvent prétendre à être au second tour. Et avec des idées qui sont très clivantes. C'est ça, en vérité, qui est assez problématique. Alors, on évoque l'extrême droite avec Zemmour et Le Pen. On pourrait aussi faire ce grief à l'extrême gauche avec parfois des propos très discutables de Mélenchon. Et en fait, c'est ça qui moi, me préoccupe le plus. C'est pas tant de savoir telle ou telle personne porte... Le drapeau, c'est de voir cette France qui se replie sur elle-même, cette France qui stigmatise, cette France qui manque de confiance en l'avenir. C'est ça qui est assez préoccupant. Et ce qui est encore plus préoccupant, c'est quand on regarde ces sentiments qui sont des sentiments terribles en vérité, ils sont surtout vrais chez les jeunes gens. C'est ça qui est fou.
Mmh. Et qui voteront pas, qui voteront très peu.
Et que la part de jeunes gens qui portent des voix sur l'extrême gauche ou sur l'extrême droite est très élevée. C'est ça qui est préoccupant. Alors j'espère que voilà, cette élection que tout le monde annonce très violente sera peut-être moins violente qu'on ne le dit. En tout cas, il faut présager des moments un peu difficiles.
Il faut quand même y rajouter le discours de haine que déverse quotidiennement Zemmour. Quoi. Ça, je ne sais pas si vous... Moi, je n'arrive plus à l'écouter. Quoi. Ce discours de haine qui va aggraver ce que tu es en train de dire... Mmh. Hein. De diviser les gens, c'est le fameux grand changement remplacement.
Ah, le grand remplacement.
J'écoutais ce matin sur France Inter, il y avait un spécialiste qui a fait une étude là-dessus, qui dit que c'est le grand remplacement, ça ne peut pas arriver, quoi. Il démontre méthodiquement comment c'est pas possible, quoi. Et il n'empêche qu'il n'arrête pas l'autre de parler de grand rassemblement.
Je vais analyser un petit peu sommaire, mais en fonction de l'histoire. Ouais, Zemmour, de temps en temps, il me fait penser à Hitler, parce qu'Hitler, il a écrit un bouquin qui s'appelle Mein Kampf, qui était complètement mal écrit, avec tout un tas d'impropriétés et d'inexactitudes, et puis il avait exactement le programme qu'il avait prédit. Je considère que Zemmour, quelque part, il a la même ambition.
La même approche.
Ça, c'est dangereux, parce que c'est pas possible.
Ah oui.
Alors, c'est vrai que la politique, en ce moment, bon...
Il faut se méfier du nazisme, parce que...
Que ce soit de droite ou de gauche, c'est pas brillant, quoi.
Forme de néo-nazisme, parce que moi, je considère que Hitler, il a commencé par faire ça, c'est-à-dire en 24 ans. Il a joué sur les difficultés économiques pour prendre le pouvoir. En 33, d'extrême justesse, parce que son parti avait été relativement battu lors des élections intermédiaires au niveau des législatives, en fait, de la Chambre du Reichstag. Et c'est vrai qu'il est arrivé vraiment par piston, parce qu'à force de gonfler Hindenburg, qui était président du Conseil, enfin, président de la République de Weimar, il a dit, bon, allez, je vous nomme chancelier ou vice-chancelier au départ, et puis c'est mieux. Économique allemand qui l'ont poussé. C'est vrai qu'on n'est pas à l'abri éventuellement d'une crise économique majeure et surtout d'un puissant appel à remettre de l'ordre, comme ça s'était passé avec De Gaulle, mais d'une manière démocratique, par contre. Donc il est clair que Zemmour, il ne faut absolument pas qu'il prospère, parce que sinon, c'est pas possible. On peut pas. Des thèses comme ça, c'est complètement irréfutable. Quoi.
Bah, il réécrit l'histoire comme il a envie de la réécrire, hein, depuis le début, de toute façon. Donc, voilà. Mais non, moi, je reste assez confiant. Hein. Je pense que. Marine Le Pen restera devant, quoi qu'il arrive. Et à la limite, je trouve que même Marine Le Pen, elle est quand même vachement plus soft qu'avant.
Très soft, mais
parce que depuis que Zemmour est là, on a l'impression que le discours.
Tout est relatif.
Tout est relatif. Hein.
C'est sa stratégie, c'est d'être soft, justement.
Ah, bah oui. Oui, oui. Alors, la fameuse dédiabolisation. J'ai réussi à le dire.
Ouais, c'est dur à dire.
Non, c'est dur à dire. Elle a tellement bien fonctionné qu'aujourd'hui, elle est rentrée, j'allais dire, dans le rang des partis pratiquement classiques. Et que, évidemment, ben, on le dit depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il y avait un créneau là qui était ouvert et que personne n'occupait, et ce créneau a été pris par Zemmour, hein, tout simplement.
Moi, il me semble que l'enjeu de ces élections, ça va être le taux de participation. Si effectivement on a toujours une érosion du nombre de votants, ça peut être catastrophique. Oui. Quoi. Et c'est, à mon avis, l'enjeu est là. Et il faut que nous. Enfin, moi je fais partie des gens qui votent. Alors, je suis autour de la table.
Tu vas voter droite.
Peu importe, mais moi j'ai tendance à dire à tous les gens qui sont autour de moi, mes enfants, mes petits-enfants, pour ceux qui vont voter, mais ils sont encore jeunes, mais notamment mes enfants, il faut aller voter, quoi. Je veux dire, c'est un acte démocratique, républicain d'aller voter. Et moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on assiste encore à un recul du nombre de votants, y compris pour une élection majeure comme les présidentielles.
Alors, si tu veux, il y a aussi un défaut à la base, c'est que depuis 40 ans ou 50 ans, on ne fait plus d'instruction civique sérieuse à l'école.
Ah, c'est vrai, moi j'avais connu ça.
Les gens ne savent pas pourquoi ils votent, d'ailleurs, parce qu'il y a tellement d'échelons administratifs, et il y a trop de parlementaires, bien entendu, on le sait, puisque De Gaulle voulait réduire la chambre haute en chambre économique, avec des pouvoirs restreints, tout ça. Chaque fois qu'on essaye de toucher quelque chose dans la Constitution, non seulement on n'y arrive pas, mais...
Ce qui est très paradoxal, c'est que, alors effectivement, les taux de participation s'effondrent, on sent qu'il y a une vraie défiance des Français vis-à-vis de la politique. Et en même temps, dès que les Français ont un coup dur, ils se retournent vers le politique pour régler leurs difficultés.
Ouais. Bah, c'est normal, l'institution, elle est là pour ça.
Oui,
en
mais
partie,
c'est un mouvement très contradictoire quand même.
Ouais. Ah bah complètement, mais elle doit apporter, le monde politique doit apporter des réponses. On peut les critiquer et ils sont sur la scène, ils doivent être critiqués, c'est comme ça qu'ils s'amélioreront, ou pas. Il y en a un des deux qui va céder, ou c'est le peuple, la nation, ou c'est le monde politique.
Mais non,
si voilà. On en arrive aujourd'hui à tout ce qu'on entend, moi j'ai toujours en mémoire, Chirac et Le Pen, tout le monde, on dit, tous les politiques, on a compris la leçon.
Oui.
Singulièrement, une demi-heure après, comme une volée de moineaux, ils sont tous allés dans... Et on est encore toujours dans cette situation qui s'accentue. On a un problème sociétal, on ne sait pas le régler, on ne veut pas le régler. Après, le courage de la nation, donc nous tous, c'est pas l'État, la nation, c'est nous-mêmes. On ne veut pas qu'on change les choses, ou au détriment de son voisin, pourquoi pas, mais pas au mien. Il faut à un moment donné qu'on soit une société moderne, mais on est incapable, on n'y arrive pas. Et la société, la modernité, l'innovation va vite, très vite. Et même nous, même la nation se laisse dépasser par tout ça, à travers tout ce qu'on peut voir sur la fiscalité internationale et tout. Ça vient gentiment. Mais derrière, et les médias qui malheureusement sont aussi un pouvoir dévastateur, parce que vous parlez de Zemmour et compagnie, mais il faut savoir que Zemmour c'était un journaliste, hein, un chroniqueur, que derrière, il y a un moment donné, il faut savoir comment on veut éduquer nos jeunes et comment on va les sensibiliser à voter et à apporter un regard positif sur notre nation et notre mécanisme politique, mais pour ça, il faudrait s'appuyer sur les sociologues en disant on a un mécanisme sociétal, on va le créer, sur lequel on va créer un système économique et sur lequel on va créer un système politique. Eh bien, aujourd'hui, on ne sait pas faire ça. Et il ne faut pas sortir de l'ENA pour dire il faut aujourd'hui recréer ou modifier ou moderniser ou réformer en partie. Pas la révolution, c'est la pire des choses. La révolution, gardez ça dans l'esprit. Les pires gangsters seront au pouvoir plus tard. Donc, pas la révolution. Les réformes, oui.
Alors, tu parles de réformes. Innovation, ça sera le dernier sujet. C'est Les parrainages, est-ce qu'il faut arrêter les parrainages pour pouvoir prétendre à se présenter aux élections présidentielles? Je vous dis ça parce que, bon, il y a la nouvelle liste qui est tombée, celle du 3 février, avec en tête Emmanuel Macron, ce qui est très rigolo, il n'est pas candidat, mais il a 529 signatures, devant Valérie Pécresse qui, elle, en a 324, Anne Hidalgo, qui a beaucoup plus que ses 2%, donc 166, quand même, c'est pas mal, Fabien Roussel, 159, 138 pour Nathalie Arthaud, Jean Lassalle qui a 124 signatures, Mélenchon 100, Jadot 80, Nicolas Dupont-Aignan 77, Zemmour en a 58, Asselineau en a 56, Poutou 54, et là Marine Le Pen en a que 35 aujourd'hui.
Et à signaler que dans les signataires pour Mélenchon, il y a Renaud Muselier, le président de la région,
qui a donné sa...
À
Mélenchon.
À Macron.
Ah bon, oui, parce que là, j'étais quand même très surpris.
Non, c'est comme Macron.
Bah, évidemment.
Ce qu'il a annoncé sur Twitter.
Bah, de toute façon,
on peut l'annoncer. Il a fait la photographie de
son... De toute façon, c'est pas secret. Il suffit d'aller sur le site.
Il y a Estrosi aussi.
Bien sûr. Non, mais c'est pas une surprise. Il l'avait dit. Ouais. Il l'avait dit.
Donc on voit quand même, c'est pas pour mettre le bordel dans la droite, mais qui est quand même toujours des vases communicants.
Il y a une différence entre le bordel.
C'est autre chose que les vases communicants. C'est carrément des écluses. Hein.
Non, mais là, il y a des vases communicants entre la droite et Macron. Quoi.
Et est-ce que c'est normal aujourd'hui que certaines personnes donc, qui se présentent ne pourront peut-être pas se présenter parce qu'ils n'auront pas les 500 signatures?
Est-ce que tu peux me citer le nom d'un candidat sérieux qui a été empêché parce qu'il n'avait pas les 500 signatures?
Pour l'instant, je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, ça, pour toi, c'est un système qui,
ouais, moi, je pense
qui est fiable.
C'est un système qui s'entend. Et ce qui est étonnant, d'ailleurs, c'est l'attitude de certains maires quant à cette question-là. Je ne sais pas si vous avez vu dans la presse certains maires qui ont organisé des tirages au sort, qui ont été retoqués parce qu'on ne peut pas tirer au sort, ou d'autres qui ont interrogé leur population pour savoir à qui ils devaient donner
le parrainage. Oui,
tout à fait, oui.
C'est très particulier. Il suffit juste de prendre ses responsabilités d'élu et de dire, moi,
D'autant plus qu'on n'est pas obligé d'adhérer au parti ou aux idées.
Chaque fois, on est dans ce temps un peu de psychodrame, parce qu'effectivement, certains candidats, Le Pen à l'époque, avait des difficultés.
Mais ils
sont toujours arrivés.
Avant, c'était plus facile parce que c'était anonyme. Ouais. Et maintenant, comme c'est plus anonyme, il y a certains maires qui hésitent un petit peu.
C'est le problème, ça. Je crois qu'il faut restaurer l'anonymat sur la question. Comme ça,
ouais.
Ça.
Mais vous savez combien de communes en France?
Ah oui, il y en a un paquet.
Un peu moins de 36 000.
On parle de 500 signatures.
Ça devrait pouvoir se trouver.
Je crois.
C'est assez paradoxal qu'ils nous farcissent des chiffres comme ça, très alarmants, en disant ça va pas passer, et puis évidemment...
Non. Bah, on est au début, hein. Ouais. On est au début. Oui. On est au début. Hein,
toutes les fois, on a...
C'est la deuxième liste qui est donnée. C'est la deuxième liste qui est donnée. Donc voilà. Non, moi, ce que je trouvais assez comique, c'est que le seul qui n'est pas candidat, c'est lui qui a les 500 déjà. Oui. Voilà, c'était le côté un peu...
Ouais, disons que ça, c'est une intention. C'est pas, pour le moment, c'est pas physique.
Et comme le disait...
Ah si.
Là, c'est signé.
Ah, il y en a déjà qui ont signé.
Ah oui,
Macron,
tout ça. Tu vas sur le site.
Et dans le président de la région. Je déconnais tout à l'heure.
Tu vas sur le site du Conseil constitutionnel.
Très bien.
Tous les jours, ils mettent à jour... Donc le nombre, et tu as les noms de tous ceux qui ont apporté leur soutien ou leur signature. Voilà. Donc tu peux voir les élus au Alpin ou les élus des Alpes d'Haute-Provence pour qui ils ont voté.
Ce qui est sûr, c'est que le système, il faut le revoir.
Parce que si tu veux, je te coupe, mais logiquement, il y a un responsable du Front National qui disait que hier, vu la l'empilement des structures administratives comme les communautés de communes ou d'agglomération, il y avait un petit peu un chantage indirect qui était fait par le patron de l'agglomération, de l'agglo, en disant si vous voulez donner votre
voix à un tel,
vous risquez d'avoir
des problèmes
au niveau du financement de certains équipements collectifs que vous proposiez de financer.
Il y a un problème au niveau du conseil régional. Les élus du Rassemblement National, ils sont très divisés au niveau régional, PACA. et ça barde un peu, quoi. Ça chauffe un peu entre eux, mais c'est dommage. Je pense que le système, il mérite d'être réformé.
Oui, peut-être. C'est sur ces bonnes paroles que l'on va se quitter. Merci, Monsieur Chex. Merci. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci, les gars. Merci. On se retrouve la semaine prochaine avec notre invité. Ce sera Chantal Emeoud. Passez un bon week-end. À la semaine prochaine.